Bonjour à toutes et à tous.
Madame la ministre nous a dit qu'elle allait faire des inspections, des contrôles, et nous sommes très heureux d'avoir ces inspections et ces contrôles. Le but d'Orpea, c'est une société humaniste. On est tout près de l'humain. C'est un métier de l'humain, prendre soin de nos résidents.
C'est le nouveau PDG d'Orpea qui parle, nommé après le scandale. Bon, dans ce dossier, beaucoup de larmes de crocodile, hein. Les EHPAD privés lucratifs, ce sont les mêmes qui parlent d'humanité aux familles et qui viennent de me promettre, sur Internet, un placement sûr avec de belles perspectives d'avenir et 5-6% de rentabilité, c'est beaucoup mieux que le livret A. L'État qui promet de taper fort, eh bien c'est le même qui a ouvert dans les années 2000 la porte aux financiers, visiblement sans mettre en place les contrôles suffisants, et qui, si on écoute les spécialistes, accorde des budgets pour les soins si serrés qu'ils poussent à rationaliser les tâches à l'extrême, publiques ou privées. Le financement du grand âge, en effet, c'est une patate chaude que les gouvernements se repassent de quinquennat en quinquennat, ça ferait un beau sujet pour une campagne. Et puis, elles sont discrètes, mais les agences de notation extra-financières, quelle est leur crédibilité? Celles qui conseillent les investisseurs pour des placements plus verts ou plus socialement responsables. Vous savez, la fameuse RSE. Mais comment travaillent leurs analystes? Il n'y a pas de normes internationales. Il s'agit beaucoup de retranscrire ce que veulent bien dire les entreprises d'elles-mêmes. Ça s'appelle du déclaratif. Et du coup, qui était en moyenne mieux noté que l'ensemble de son secteur? Eh bien, Orpea.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, on n'arrête pas l'écho. C'est le samedi entre 9h13 et 10h. Tout ce qui s'est passé cette semaine, l'actualité, les tendances de fond, la promesse, c'est d'en parler et de comprendre ensemble. Ce samedi, nous allons interroger cet avenir qu'on nous promet, la réindustrialisation de la France. Plus d'usines pour plus d'emplois et en même temps moins de cheminées qui crachent du CO2. Interview du président de France Industrie dans une grosse demi-heure, Alexandre Sobo. Il est la voix des 29 filières industrielles françaises. Les puces, nécessaires à l'industrie justement, dans les téléphones comme dans les voitures. Dans 3 jours, Bruxelles va présenter son plan pour rendre l'Europe moins dépendante de l'Asie. Avons-nous vraiment les moyens de nous émanciper? Que peut-on apprendre du leader mondial, Taïwan? Vous entendrez le reportage d'Adrien Simor. Madame Vioboulot, vous allez nous ramener en France. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
On a une question de Morgane.
Oui, Morgane qui est déléguée du personnel, qui se réjouit du fait que les droits des lanceurs d'alerte vont être renforcés. Mais la future loi peut-elle vraiment empêcher les représailles?
Donc la lecture, l'analyse, le décryptage de la loi avec vous, ça sera juste avant 10h. Et tout de suite, le vif de l'actualité, je salue les débatteurs du Magéco, Christian Chavagneux. Salut Christian.
Bonjour à tous.
Éditorialiste à Alternatives Économiques. Qui confronte sa grille de lecture à celle de Laurent Bigorgne? Bonjour Laurent.
Bonjour Alexandra.
Le directeur de l'Institut Montaigne.
Et rien sur ma grille de lecture?
Rien. J'ai dit que vous les confrontiez, vos grilles de lecture. J'ai pas mis d'adjectif encore. Cette semaine, focus sur le logement. Le chef de l'État est allé défendre son bilan devant la Fondation Abbé Pierre. Les candidats déclarés ont présenté leurs propositions. Débat sur un dossier dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est beaucoup trop négligé. Et on aimerait bien savoir ce qui pourrait nous changer la vie.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des avancées sur un certain nombre de sujets. L'augmentation du nombre de rénovations thermiques, une politique du logement d'abord.
Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
Mais dès le début du quinquennat, il y a eu des décisions de coupes budgétaires très importantes. On a coupé en 5 ans 15 milliards d'euros. À partir de là, les bonnes politiques qui peuvent être menées à certains moments ont été freinées.
En fait, il faut construire plus de logements tout court et plus de logements sociaux.
Emmanuel Wargon, ministre du Logement.
Plus de logements tout court, le quinquennat se termine finalement bien puisqu'on a 2,2 millions de permis de construire sur la durée du quinquennat, tout logement confondu, c'est-à-dire plus que le quinquennat précédent. Sur les logements sociaux, on est en dessous de ce que nous avons à faire. On a un rebond cette année, plus 8%, mais je reconnais que c'est insuffisant.
Madame la ministre, c'est votre majorité qui a baissé les APL et qui a détruit une grande partie du logement social.
Aurélien Pradier, secrétaire général et député Les Républicains.
Sommes-nous un grand pays lorsque 300 000 êtres humains n'ont pas un toit pour survivre? Lorsque 8 000 enfants vivent dans un bidonville, ici, en France? Nous, nous savons que la France est un grand pays. Le grand pays de l'abbé Pierre qui lançait, il y a 68 ans, jour pour jour, ce hurlement qui transperça l'hiver 54. Demain, nous nous battrons de toutes nos forces. Nous ferons ce que vous n'avez pas fait.
Techniquement, qu'est-ce que ça a de compliqué? Rien. Rien, absolument rien, on sait tout faire.
Jean-Luc Mélenchon.
Les trous, les bâtiments, le machin.
Député La France Insoumise, candidat à l'élection présidentielle.
Des logements, plus vous mettez des choses de qualité, plus elles seront durables. Donc il n'y a pas de difficulté. Quant à l'argent, oh pardon, les sous, il y en a partout. On est obligé de briser ce cycle, mais pour briser ce cycle, il faut aller à la cause. Le logement ne doit plus être une structure d'accumulation du capital.
On est dans un monde d'injonctions contradictoires en permanence.
Pierre-René Lemas, président de France Active.
Comment vous voulez dire à des acteurs du logement social, à des maires, à des bâtisseurs, à des promoteurs immobiliers? Alors, il faut que à la fois vous arrêtiez d'artificialiser et en même temps, il faut que vous construisiez beaucoup tout en évitant d'être trop dense. Donc je pense qu'à un moment, il faudra que les politiques publiques finissent par résoudre ces contradictions.
Et tout ça dans l'intérêt des Français. Laurent Bigorgne, quel Français, qui a un problème de logement et où, s'il vous plaît? C'est la photo.
Alors c'est une question, évidemment, logement, très compliquée. On va partir de faits peut-être démographiques pour rappeler qu'en 1980, on était capable de mettre en chantier dans ce pays à peu près 416 000 logements par an. À l'époque, on avait 54 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est dans une situation où ce taux de logement pour 1000 habitants, qui était de 7,7 en 1980, est tombé à 5,8. Donc on a un effort de construction qui peut apparaître plus faible. Dans le même temps, on a une espérance de vie qui, pour les hommes et les femmes, sur cette période de 40 ans, a gagné 10 ans. Et puis on a des pratiques de vie qui ont changé. Par exemple, dans la France de 2020, on décohabite beaucoup plus, ce qui veut dire qu'on a peut-être besoin de logements qui n'ont pas nécessairement la même taille, mais on en a besoin de davantage. J'ajoute à la complexité démographique le fait que les besoins de logements ne sont pas équitablement répartis sur le territoire. On ne cesse de dire en politique publique, il faudrait être capable de construire 500 000 logements par an en France, mais ce qu'on sait, c'est que à peu près les deux tiers de ces logements devraient être construits dans 6 régions. Pourquoi? Parce qu'on a une croissance économique, de l'activité, une fixation des personnes qui est très dépendante aujourd'hui des zones de croissance, c'est-à-dire des métropoles.
Ouais. Île-de-France, PACA,
c'est Île-de-France, oui, c'est certains littoraux, c'est PACA, c'est la région lyonnaise. Et donc, on voit bien qu'on a des sujets qui, en réalité, territorialement, sont très différents et on continue d'avoir une politique du logement qui est principalement édictée par l'État, alors que ceux qui décident à la fin du jour, ce sont les maires. Pourquoi? Parce que les maires décident du plan d'occupation des sols et donnent le permis de construire. Donc, il y a un État qui ne cesse de dire, je reviens à 2017, Emmanuel Macron, qui dit « je ferai un choc d'offres ». Il a fait la même chose, ni plus ni moins, que son prédécesseur. Il y a à peu près 2 millions de logements qui ont été, dont la construction a été autorisée sur le quinquennat. Et il y a une réalité du terrain qui est une réalité qui fait que les maires, aujourd'hui, ont la main sur cette politique, en tout cas sur les constructions, avec un contexte, par ailleurs, réglementaire qui est très difficile puisqu'on ne cesse de rajouter des couches réglementaires pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Je pense qu'on
en débattra. Ça veut dire les normes. On en débattra parce que c'est dans les propositions des candidats. Christian.
Je voudrais rajouter, je suis entièrement d'accord avec la photo que vient de faire Laurent, je voudrais rajouter quelques éléments. 4 millions de mal logés d'après la Fondation Abbé Pierre, 1 million de gens sans logement personnel, 300 000 personnes à la rue quand même, et 3 millions sans le confort de base ou un surpamplement. Deuxième problème, 8,5% de logements vacants quand même, ça fait 3 millions de logements vacants, dont un peu plus d'un million vacants depuis plus de 2 ans. Alors ça, quelquefois ça veut dire qu'il n'y a pas de demande parce que les logements sont vraiment pas super, et quelquefois c'est juste des gens qui gardent des logements vides pour faire des plus-values. Plus la location touristique, les fameux Airbnb. Alors, j'ai trouvé qu'une étude que sur Barcelone, mais Paris c'est encore plus renforcé parce que Paris est encore plus Airbnbisé que Barcelone. Dans les zones où l'activité d'Airbnb est la plus élevée, augmentation moyenne des loyers, 7% en prix d'achat, 14% en plus. Donc voilà, il y a cet effet qui renforce l'effet de métropolisation. Et puis enfin, l'inflation immobilière. J'ai été surpris par ces chiffres, honnêtement, je ne les connaissais pas du tout. Le prix des logements anciens, à la fin du troisième trimestre 2021, plus 7,4% sur un an, c'est la plus forte hausse depuis 10 ans. C'est vraiment, ça va très vite. Les logements neufs, ça augmente moins vite, mais Sur 20 ans, ça a pris 130%. Pourquoi est-ce que les prix de l'immobilier vont si vite? Il y a les facteurs démographiques. Laurent, j'y reviens pas, Laurent les a bien détaillés. Mais c'est aussi parce que le logement est devenu un actif financier, voire un actif spéculatif. Il y a des taux d'emprunt qui n'ont pas arrêté de baisser quasiment à taux zéro. Donc ça incite à emprunter pour essayer d'avoir du rendement sur le logement. Mais c'est aussi une nouvelle forme de protection sociale. On sait bien que les rapports du Conseil d'orientation des retraites nous disent les retraités qui sont propriétaires ont un pouvoir d'achat, un pouvoir de vivre beaucoup plus important. Ouais. Et donc les gens... Et c'est compense, je dirais, la protection sociale qu'ils ont peur de perdre avec ça. Et enfin, les loyers quand même, parce que là, on vient de parler de l'achat, mais il y a aussi les loyers, plus 40% en 20 ans. Mais la part financière n'est pas absente, puisque 3,5% des ménages détiennent la moitié des logements en location.
Et alors, je vais vous faire parler encore deux secondes. Christian, sur le bilan que fait Laurent de ce quinquennat, il dit il devait y avoir un choc d'offre, il n'a pas existé. On peut dire quoi? Que finalement, ce quinquennat, il n'a pas fait grand-chose? C'est ça aussi votre...
C'est pas qu'il n'a pas fait grand-chose. Le bilan de Macron est catastrophique sur le logement. Catastrophique. Vous voulez que je détaille?
Bah, allez-y.
Bon, alors...
Et après, et puis il y a Laurent dans les starting blocks. Mais allez-y, en quelques points, et puis on donne la parole à Laurent.
On s'aperçoit que avec l'augmentation des loyers, l'augmentation là, on a une situation très inégalitaire. C'est-à-dire les plus riches sont bien logés, en gros, et les plus pauvres sont pas très bien logés. Que fait Emmanuel Macron par rapport à ça? La fameuse réforme des aides personnalisées au logement. La Fondation Abbé Pierre nous dit 4,2 milliards en moins en rythme annuel, contre près de 4 milliards en plus de revenus pour les plus riches. Emmanuel Macron, c'est pas du tout le président des riches, c'est le président de l'injustice. Il fait les poches des pauvres pour redonner aux riches.
On reste. Allez, Laurent Bigorgne, le bilan, vous l'avez déjà fait?
Oui, le bilan on l'a fait, mais je pense qu'il faut revenir effectivement à un fait qui est important, c'est qu'aujourd'hui la dépense de logement pour les Français, là où elle représentait 18% du budget des ménages en 2005, elle est aujourd'hui à 28% de leur budget.
En moyenne?
En moyenne. Et évidemment, il y a des disparités. Ouais. Et dans ce contexte, effectivement, les taux bas font que la machine immobilière, au sens de la vente, des transactions, tourne à plein régime. On estime qu'en 2021, on sera à un pic de transactions dans notre pays. Il y a 1 200 000 logements qui se seront vendus, qui auront changé de main, avec des phénomènes de tension. Les tensions, j'en ai parlé tout à l'heure, sur les métropoles, sur les villes littorales. Mais on voit, et j'aimerais vraiment introduire cet élément, avec la crise du Covid, un début de tension sur des villes moyennes, qui étaient des villes qui étaient moins intéressantes et qui, par phénomène effectivement de déconcentration d'un certain nombre de métropoles, connaissent, par exemple en 2021, une augmentation du prix des actifs de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Donc là aussi, des phénomènes de tension. Le bilan Macron, moi je dirais pas qu'il est catastrophique. Je pense que face à la politique du moins, il faut être assez humble. Le bilan Macron, il est ni plus ni moins conforme à celui de ses prédécesseurs. Et il faut pas oublier qu'il y a eu deux phénomènes très importants, notamment sur la construction pendant le quinquennat. Premier phénomène, c'est la pandémie. Alors évidemment, vous vous en rappelez tous, en mars 2020, les chantiers sont arrêtés en France. Avec un deuxième sujet, c'est qu'on a eu des élections municipales, et des élections municipales qui ont été différées, et donc des permis de construire qui ont été très différés dans le temps. Un point qui me paraît important, et c'est là où cette politique, en fait, elle est frustrante, c'est qu'on dépense deux fois plus d'argent public que dans la moyenne des pays européens.
Une quarantaine de milliards.
Voilà, donc on dépense beaucoup.
Et quand vous
plus.
Dites on dépense, il faut dire ce que c'est. Qu'est-ce que
C'est des dépenses fiscales, c'est effectivement des dépenses pour aider un certain nombre de foyers à se loger. Donc il y a toutes sortes de dépenses. On fiscalise énormément, ce qui fait qu'effectivement un certain nombre d'investisseurs font le choix de retirer le logement du marché ou par exemple ne font pas les travaux qu'ils devraient y faire. Et donc on a une politique où on dépense énormément pour des résultats qui ne sont pas satisfaisants.
Christian.
Il faut savoir que il y a le logement locatif privé et puis il y a le logement social. Et le logement social, c'est ce qui joue le rôle de régulateur. C'est là où l'État, les collectivités locales peuvent intervenir. Vous offrez plus de logement social, ça détend les zones là où il y a des problèmes. Or, qu'a fait Emmanuel Macron? Ponction sur les ressources des organismes HLM, augmentation de la TVA sur la construction, si vous voulez encourager un secteur, franchement, c'est pas en augmentant les impôts, obligation de vente. Donc, qu'est-ce qui se passe? De 124 000 logements HLM en 2016, on est passé à 95 000 en 2021. Je passe, évidemment, l'année 2020 qui était très particulière, le niveau le plus bas depuis 15 ans. Les communes qui n'en font pas assez, elles peuvent vendre, en termes de logement social, elles peuvent vendre leurs logements sociaux, même si on n'en a pas fait assez, et pendant 10 ans, alors qu'avant Emmanuel Macron c'était 5 ans, elles vont pouvoir les comptabiliser comme logement social. On marche complètement sur la tête. Et la promotion des logements dits intermédiaires...
Les classes moyennes. Hein,
oui, alors normalement, les logements intermédiaires, c'est pour les classes moyennes inférieures, sauf que les aides qu'a donné le gouvernement, c'est pour les logements intermédiaires de classe moyenne supérieure. Donc ça va pas du tout dans le bon sens.
Très bien, dans le bon sens.
Pas du tout dans le bon sens.
Bon, voilà. Ben, ça nous emmène aux solutions, puisqu'on a quand même, là, le logement, ils sont allés, tous les candidats, devant la Fondation Abbé Pierre, ils ont proposé leurs solutions, on va en essayer d'en regarder quelques-unes de près. Le logement social, justement, Laurent Bigorne...
Oui, il faudrait presque refaire une photo sur le logement social, ce qu'on ne va pas faire, mais si vous voulez, on a une politique du logement social en France qui est très généraliste. On a trois grands objectifs. À mon avis, il y en a trop. On veut à la fois, et c'est très louable, favoriser la mixité sociale. On veut accompagner l'ensemble des ménages modestes. On veut influer sur le niveau global des prix. De fait, plus d'un habitant sur six en France vit dans un logement social. Et 70% des Français sont théoriquement éligibles du fait de cette politique très généraliste. On a donc une politique qui est, à mon avis, insuffisamment concentrée et sur les zones où on en a besoin, et sur les populations qui en auraient le plus besoin. De fait, je l'ai dit, c'est une politique pour laquelle on dépense beaucoup d'argent, et avec des résultats qui sont relativement médiocres. Et c'est ça, à mon avis, l'enjeu de la campagne, si, qui évite soigneusement tous les candidats pour le moment.
Parce que pour les candidats, du coup, si on reste sur ce logement social, on a la gauche qui dit, en gros, il faut en construire au moins 150 000, voire 200 000 par an. On a d'autres candidats, Zemmour, qui dit, il faut supprimer la loi SRU qui impose aux communes de faire du logement social 25% au moins.
Alors, Zemmour, il ne se place pas du tout sur le terrain de l'habitat, lui.
Non.
La politique de logement, ça n'intéresse pas beaucoup. Il utilise la politique du logement pour nous parler effectivement de son fantasme migratoire. Donc peut-être que...
Allez, on va écarter.
Voilà. Okay. Et la politique SRU, donc la loi relative à la solidarité au renouvellement urbain, c'est quand même une politique qui est très critiquée, mais qui a permis de construire presque 2 millions de logements sociaux depuis qu'elle existe. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment, il faut aussi dire les choses.
Sauf que sur les 550 communes qui sont pas à niveau, qui devraient, compte tenu de la loi SRU, produire du logement social, seule la moitié est sanctionnée par l'État. Donc déjà, rien qu'appliquer la loi SRU, ça permettrait déjà de construire un petit peu plus. On n'a pas parlé de l'encadrement des
alors
loyers
voilà,
en zone tendue.
Allez, voilà. On se donne une poignée de secondes pour l'encadrement, allez-y.
Parce que, y a une tentative de mise en place, ça a été retoqué, et ce qu'a fait quand même Emmanuel Macron dans la loi Elan sur le logement, c'est de dire si on peut réessayer de le faire. Il ne faut pas déduire de ça que Emmanuel Macron a permis d'avoir l'encadrement des loyers, ça date de 1989, puis il y en a eu une autre étape en 2012. C'est éviter, et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'il essaie d'éviter les abus sur les prix, enfin sur les loyers, et en même temps de provoquer une convergence des loyers, parce que sur un même appartement, vous pouvez avoir 30 à 40% d'écart.
Laurent, il faut encadrer ou pas les loyers?
À court terme, quand vous encadrez, vous pouvez effectivement créer une situation qui va être bénéfique à un certain nombre de ménages qui ont des difficultés, donc c'est très bien. À long terme, vous chassez les investisseurs. Ce qu'ils vont dire, bon, les rendements sont pas ceux qu'on attend. On l'a vu, par exemple, dans des villes où on a des études économiques comme à San Francisco. Et puis, par ailleurs, deuxième conséquence de l'encadrement des loyers, vous n'incitez pas les bailleurs à faire les travaux de rénovation qui devraient être faits, tout simplement parce que leurs rendements vont être affectés dans le temps, où ils vont se dire, on ne va cesser d'encadrer, donc j'ai plutôt intérêt à me retirer ou à retirer mon bien du marché. C'est une politique qui a des effets pervers.
Et pourtant, c'est pas ce qu'ils font. Ça, c'est la théorie. Et
c'est pas la théorie. On a des études économiques et économétriques
pas en France, à San Francisco, quoi.
Christian Chavagneux. Allez, c'était quoi ce mot, Laurent Bigorne?
On
va pas parler de San Francisco. On s'arrête là. Je vous emmène pas à San Francisco ce matin, si vous voulez bien, les débatteurs. Je vous emmène à Moscou.
Желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать. Нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе и России, и найти вариант решения этой проблемы.
C'est Vladimir Poutine qui avait un ton plutôt apaisant au début de semaine. Que dit le président russe? Si on veut éviter un scénario négatif et nous voulons l'éviter, alors les intérêts de chaque pays doivent être respectés, y compris ceux de la Russie. Chacun doit essayer de trouver des solutions aux problèmes. Et le problème, ce sont quand même les 100 000 soldats russes massés près des frontières ukrainiennes. Comment éviter l'escalade militaire? L'Europe brandit de nouveau la menace de sanctions économiques. Elles sont prêtes, dit Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Alexandra.
Sylvain, vous êtes le correspondant permanent de France Inter à Moscou. Des sanctions économiques contre la Russie, ce ne serait pas les premières. Est-ce que c'est une arme puissante ?
Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis presque 8 ans maintenant et l'annexion de la Crimée, la Russie vit sous un régime de sanctions tant de la part des Américains, des Européens que des Japonais aussi, des sanctions qui visent certaines entreprises du secteur pétrolier, particulièrement importantes ici, les grandes banques également, en leur interdisant notamment l'accès au crédit européen. Ces sanctions, ce que la plupart des experts s'accordent à dire, c'est qu'elles sont malgré tout relativement inefficaces en l'état. Certes, elles ont un coût hein, pour l'économie russe et pour les citoyens, dont le niveau de vie a régressé ces 3-4 dernières années ici. Mais c'est un coût qui reste, si on peut dire, au-dessus du seuil d'acceptabilité sociale. Le chômage n'a pas explosé et les réserves de l'État russe, hein, qui sont constituées par la manne pétrolière, sont très importantes et elles servent d'amortisseur en quelque sorte. Et puis, il faut le dire, il y a aussi des moyens de contournement de ces sanctions. Moi, j'étais en Crimée en début de semaine, la Crimée où normalement les entreprises occidentales n'ont pas le droit d'opérer. Ceci dit, j'y ai vu des concessions de tous les grands constructeurs automobiles et même un hypermarché Auchan à Simferopol, la capitale. Et puis l'économie russe a montré aussi qu'elle était relativement résiliente. Je vous prends un exemple. En réponse aux sanctions occidentales, il y a eu des contre-sanctions. Hein. La Russie a décrété un embargo sur les produits alimentaires européens, ce qui fait que, par exemple, moi, je ne peux pas manger de parmesan italien. On n'en trouve pas ici. Mais face à cela, la Russie a développé une filière fromagère qui n'existait pas jusque-là et qui a fait de gros progrès ces dernières années. Alors, du coup, face à la relative inefficacité de ces sanctions aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, les États-Unis, les Européens menacent de prendre des sanctions vraiment douloureuses. Ce serait par exemple l'interdiction d'importation de composants électroniques indispensables à l'industrie, ou pire, l'interdiction des transactions en dollars, ce qui serait très handicapant pour l'économie russe. Mais là se pose immédiatement la question de la réaction de la Russie, hein, principal fournisseur de gaz des Européens. Est-elle capable de fermer totalement ou partiellement le robinet?
Et là, justement, Sylvain, qu'est-ce qu'on en dit à Moscou?
Bien, ce qu'on en dit, c'est qu'un gel ou un abandon, notamment de Nord Stream 2, hein, le gazoduc qui vise à doubler les exportations de gaz vers l'Europe, aurait des conséquences. Clairement, le pouvoir russe ne dit pas qu'il menace de couper le robinet, mais certaines personnalités politiques de second plan l'ont déjà dit ici. Et en Allemagne, c'est évidemment regardé de très près, l'Allemagne qui est particulièrement dépendante du gaz russe. Puis en plus, il y a des signaux faibles. Hein. Ces dernières semaines, les livraisons de gaz vers l'Europe ont été réduites au minimum prévu dans les contrats, alors que les stocks sont plutôt faibles en Europe. Il y a même eu quelques jours où le flux du gazoduc Yamal qui alimente l'Europe est reparti dans l'autre sens, vers l'Est. Il y a une grande partie de bluff hein, qui se joue actuellement autour du gaz russe.
Sylvain Tronchet, en direct de Moscou. Spasiba Bolshoï. Allez, dans quelques minutes, l'homme qui représente toute l'industrie française sera dans ce studio. Alexandre Sobo est notre invité. Mais d'abord, zoom sur une des industries les plus méconnues, celle des semi-conducteurs. En fait, ce sont des puces sans lesquelles nos économies modernes ne tournent pas. Et pendant cette pandémie, nous avons constaté notre dépendance à nos fournisseurs asiatiques et surtout à Taïwan. Qu'avons-nous à apprendre de son modèle? C'est le moment de sortir du studio avec notre reporter Adrien Simor.
Bienvenue au salon des expositions de Nanggang à Taipei. Aujourd'hui, c'est le salon annuel des semi-conducteurs de Taïwan, le SEMICON. Cette année, nous accueillons 650 entreprises réparties sur plus de 2000 stands. En fait, c'est toute la chaîne de fabrication de semi-conducteurs qui est réunie aujourd'hui.
Le SEMICON, c'est une des plus grandes expositions au monde, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est la deuxième plus grande exposition au monde de semi-conducteurs. Pour moi, c'est vraiment le symbole de la vitalité du secteur des puces électroniques de Taïwan et la preuve qu'il va continuer à se développer dans le futur.
En fait, le SEMICON, ça ressemble un peu à un salon de l'automobile. Il y a des hôtesses en mini-jupe, des grosses machines en pleine démonstration. Sauf que la star du salon est ici un objet minuscule. Ce sont les semi-conducteurs qu'on appelle aussi les puces électroniques. Terry Tsao est le président de l'association Semi Taiwan. C'est lui qui organise ce salon géant.
Avant, notre industrie n'avait que peu de contacts avec la politique. On ne faisait que du business. Mais tout d'un coup, nous avons dû faire face à de nombreuses questions politiques. L'an dernier, les gouvernements du Japon, des États-Unis ou d'Europe sont venus nous voir pendant les pénuries dans l'automobile. Notre industrie a dû travailler très dur pour répondre à leurs demandes. La production a été poussée à 102%. Depuis cette pénurie, la plupart des pays sont paniqués à l'idée de ne pas avoir d'industrie des semi-conducteurs. Je comprends. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que construire une usine est très coûteux. Ce n'est pas comme s'il ne fallait que des machines. Il faut aussi des dizaines de milliers de travailleurs. Je pense à titre personnel que construire l'ensemble de cette chaîne de production sur son territoire n'est pas si pertinent. Si tout le monde veut construire sa propre usine, on va se retrouver dans une situation de surinvestissement. Ce serait catastrophique.
C'est un archipel grand comme la Belgique, situé au large de la Chine, 23 millions d'habitants, toujours sous la menace d'une invasion militaire de Pékin, qui ne reconnaît pas son indépendance. Voici le danger pour Taïwan, ce leader mondial dont nos usines dépendent tant. Un seul exemple, 92% des puces qui se trouvent dans les derniers iPhones sont made in Taïwan. Les Américains et les Européens multiplient donc désormais leurs propres investissements, mais peut-on se passer si facilement des sous-traitants taïwanais? Toujours à Taïwan, on suit le micro d'Adrien Simor.
Alors je quitte Taipei pour me rendre au cœur de cette industrie. C'est le parc technologique de Hsinchu, situé à 80 km au sud de Taipei. C'est dans ce parc, géré par le gouvernement, que 63% de la production mondiale de semi-conducteurs est réalisée. J'y vais en voiture avec Michael Chang. Michael est ingénieur chez Unabiz, une entreprise qui fabrique des objets connectés.
Right now we are going to Hsinchu.
Là, on va à Hsinchu. C'est à 2 heures au sud de la capitale, Taipei. C'est un endroit très important pour l'électronique taïwanaise. De très nombreuses entreprises ont leur bureau ou leurs usines à Hsinchu. Par exemple, dans le secteur des semi-conducteurs, le leader mondial du secteur, TSMC, a son siège et ses usines à Hsinchu.
Michael, you're an engineer. Michael, vous qui êtes ingénieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est si compliqué pour une entreprise de fabriquer ses propres puces?
When we talk about the manufacturing, the process and technology.
En fait, si on parle de la fabrication, je dirais que c'est aussi compliqué que de construire une navette spatiale.
Building a spaceship.
Ça demande des connaissances dans beaucoup de domaines, mais aussi des équipements très complexes et très coûteux. Chaque entreprise est donc obligée d'investir des sommes énormes pour ne se spécialiser, au final, que sur un seul processus.
Voilà, Michael m'a déposé devant TSMC. TSMC qui est le leader mondial de la production en sous-traitance de puces électroniques. C'est ici, à l'intérieur de ces immenses bâtiments rectangulaires, qu'est réalisé un des processus industriels les plus complexes au monde. Évidemment, on n'a pas le droit de rentrer dans les usines de TSMC. Pourquoi ? Parce que TSMC est le seul, avec son concurrent Samsung, à maîtriser la production des puces les plus petites au monde. Heureusement, on a rendez-vous à quelques centaines de mètres de TSMC, à l'Institut de Recherche Technologique de Taïwan. Cet institut financé à 70% par le gouvernement est le point de départ de cette industrie. Monsieur Hu est le directeur des laboratoires d'électronique et d'optoélectronique de l'institut.
Il y a 40 ans, Taïwan n'avait aucune industrie des semi-conducteurs. Le gouvernement a voulu miser sur ce secteur pour développer Taïwan. Ils ont fait ce choix car l'île de Taïwan est assez petite. Donc on n'est pas forcément adapté pour des industries lourdes. Notre institut a donc envoyé une dizaine d'ingénieurs aux États-Unis pour étudier la fabrication et la conception de ces puces pendant un an. Quand ils sont revenus à Taïwan, ils ont eu comme mission de développer l'industrie avec le soutien financier du gouvernement. Quelques années plus tard, notre institut a donné naissance à l'entreprise UMC, qui est aujourd'hui un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde. Et en 1987, nous avons créé TSMC, qui est aujourd'hui leader mondial.
TSMC a développé un modèle économique très particulier puisque les entreprises sous-traitent leur fabrication à TSMC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce modèle?
On appelle cela le modèle de fonderie pure. C'est très différent de celui utilisé par les autres géants du secteur. Par exemple, le coréen Samsung ou l'américain Intel. Ces deux entreprises fabriquent des puces en sous-traitance pour des grandes marques, mais ils ont aussi leurs propres produits. Si tu es leur concurrent direct, cela peut donc poser des problèmes de confiance. Ce problème ne se pose pas avec TSMC.
Et c'est aussi ce modèle qui a permis de séduire les plus grandes marques qui sous-traitent aujourd'hui la fabrication de leurs puces à TSMC. Mais cette situation de quasi-monopole a fait grincer des dents pendant la pénurie et notamment dans le secteur automobile qui a été très impacté par la pénurie. J'ai rendez-vous avec Frank Huang qui est le président de Powerchip. Powerchip, c'est le 7e plus grand fabricant de puces électroniques au monde qui est aussi situé à Hsinchu. Et une part importante de sa production est justement destinée au secteur automobile.
Pendant la pandémie, la demande en automobile a ralenti. Les fabricants ont donc retiré leurs commandes de puces électroniques. À ce moment-là, on leur a dit qu'il fallait mieux garder ces commandes. Mais ils n'ont pas écouté. Et quand la demande est repartie, tout le monde a voulu des puces. On a été obligé de pousser toutes nos lignes de production à fond au-delà de nos capacités. C'était la folie, mais on n'avait pas le choix.
Et ça, c'est toujours le cas actuellement.
Bien sûr, c'est toujours le cas. Et je pense que la pénurie dans le secteur automobile est loin d'être terminée. La demande va continuer d'augmenter avec l'arrivée des véhicules électriques et autonomes. Cela va demander une quantité énorme de puces électroniques à laquelle nous ne sommes pas préparés. C'est pour ça que, sur le long terme, on doit compter sur nos nouvelles usines pour répondre à cette demande.
Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont réalisé leur dépendance aux fabricants taïwanais. Est-ce que vous voyez cela comme un risque que le fait que beaucoup de pays voudraient avoir leur propre production ?
En fait, j'aimerais vraiment dire au gouvernement français qu'il est impératif d'avoir sa propre usine de semi-conducteurs. C'est une question de sécurité nationale et de protection de l'économie. Il vous faut au minimum une usine de puces électroniques pour approvisionner votre industrie nationale. Je pense que le gouvernement doit soutenir cela, peu importe le coût.
Les semi-conducteurs, une industrie si convoitée. C'était le reportage à Taïwan d'Adrien Simor.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Il est la voix des 29 filières industrielles françaises. C'est le président de France Industrie qui s'est assis dans le studio 521. Bonjour Alexandre Sobo.
Bonjour.
Vous avez écouté le reportage. Ces pénuries de semi-conducteurs, on l'a vu, hein, elles bloquent ou elles ralentissent des usines françaises. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que les industriels français voient le bout ou est-ce qu'ils redoutent que ça ne dure?
Écoutez, dans toutes les analyses qui sont faites aujourd'hui, on pense qu'il manquera encore une 20% de production par rapport aux besoins si on voulait faire toute la demande. Et que ça ne se résorbera au mieux qu'à partir de 2023.
Alors, le mardi prochain, la Commission européenne va présenter son plan, son grand plan d'investissement, c'est plus de 40 milliards d'euros, le CHIPS Act, pour justement créer des usines de semi-conducteurs de puces sur le territoire européen. C'est un interventionnisme très nouveau pour Bruxelles, ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait Taïwan. Qu'est-ce que ça change la donne pour vous?
C'est déjà une prise de conscience que dans l'économie du monde aujourd'hui, les États interviennent. On a vu dans le domaine de la santé aux États-Unis, on a vu dans le domaine de l'électronique à Taïwan, en Chine ou même aux États-Unis, où il y a aussi d'énormes efforts qui sont faits par la puissance publique. Et donc, si on veut que l'Europe continue à exister dans cette économie mondiale de demain, il faut absolument qu'elle se dote des outils, non pas pour aider, mais pour faire comme les autres. Sinon, les entreprises européennes ne seront absolument pas en situation de lutter contre leurs concurrents chinois, taïwanais ou américains qui ont des soutiens à très haut niveau.
Et ça veut dire qu'on va avoir, c'est fait, c'est en train de se faire, on va avoir des usines, des méga-factories de puces?
On en a déjà. Simplement, elles sont effectivement, elles représentent aujourd'hui par rapport à la consommation en Europe une part manifestement limitée de nos consommations. Et la question, c'est comment on en localise plus sur le sol européen. Et donc là aussi, ce CHIP Act, c'est on va au-delà de soutenir l'innovation. On accepte de soutenir la production. Et les deux préoccupations qui sont les nôtres, c'est quel type de produit.
Alors, oui.
Et donc là aussi, si on veut que ça aide la souveraineté européenne, il faut que ce soit d'abord centré sur les puces qui sont consommées en Europe. Parce que soutenir des entreprises qui vont venir s'installer en Europe pour faire des puces qui sont consommées aux États-Unis ou en Chine, ça va pas beaucoup aider nos constructeurs automobiles, pour revenir sur un sujet qui a pas mal fait l'actualité.
Mais j'entends que vous avez une divergence avec Thierry Breton, parce que justement, lui, ce qu'il veut, si je lis bien les interviews, ce sont des nanos, des puces de 2 nanomètres, hein, aidez-moi si je me trompe.
Il faut évidemment préparer l'avenir, ouais. Mais il faut trouver le bon équilibre entre ce que sera le besoin demain, et ce qu'est le besoin aujourd'hui, et ce qui sont les éléments de souveraineté. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des acteurs européens, alors certes moins puissants, on l'a vu que TSMC,
ST Microelectronics, pour parler d'un
Infineon, français. NXP, il y a des acteurs. Il faut bien se poser la question, en tout cas nous à France Industrie, c'est ce qu'on défend, que l'effort fait par l'Europe et par les États, puisque a priori les deux pourront intervenir, se fasse d'abord au profit des acteurs européens qui pourraient renforcer leur capacité en Europe.
J'entends qu'il y a encore débat ou tractation ou lobbying.
Écoutez, on est au début. Ouais, okay. Vous me demandez ce que j'en pense. J'exprime ce qui me paraît important pour l'industrie européenne, qu'on fabrique des choses dont on a besoin en Europe et qu'à chaque fois que c'est possible, on essaye de le faire avec des acteurs européens. On vit tous les jours quand le centre de décision d'un acteur quel qu'il soit est dans notre pays ou en Europe, on a plus de capacité à interagir, on a plus d'écoute, et quand la situation devient tendue, on le sait tous, c'est quand même beaucoup mieux pour l'Europe et pour la France.
Alors, est-ce qu'on peut vous croire jusque-là, Alexandre Sobo ? Est-ce que vous avez, que pensez-vous de ce qu'a dit Bruno Le Maire sur la désindustrialisation ? Depuis 30 ans, il a fustigé ce qu'il appelle la désertion de certains grands capitaines d'industrie français qui ont choisi de délocaliser pour gagner un centime par pièce.
Écoutez, moi, ce que je vois au quotidien, c'est depuis 30 ans, et ça s'est clairement inversé depuis quelques années, mais l'industrie étant celle du temps long, il faut remonter dans le temps pour comprendre ce qui se passe. C'est finalement une politique qui était que l'industrie se développe ou qu'elle régresse, c'est pas mon problème. Et donc, on a eu des politiques en matière sociale, en matière fiscale, qui ont fortement affecté la compétitivité de l'industrie française. Et comme le chef d'entreprise que je suis et tous ceux que je représente ont comme première préoccupation la pérennité de leur entreprise, à un moment, quand vous êtes dans un marché ouvert et que vous êtes plus compétitif, votre sujet, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise, donc de produire là où vous l'êtes.
Donc vous dites, c'est les politiques publiques qui nous ont pas soutenus.
Écoutez, quand on voit que les impôts de production en France sont 2 fois plus que la moyenne européenne et 6 fois plus que l'Allemagne après la baisse bienvenue qui a été décidée dans le cadre du plan de relance, on voit bien qu'il y a encore du chemin à faire. Et on est dans une économie ouverte. Patrick Artus le dit très bien. Mmh. Le gros de ce qu'on a perdu, c'est par rapport à nos voisins allemands, italiens et espagnols.
Il y a quand même aussi énormément d'aide à la production. Je peux penser juste au crédit d'impôt recherche. Et puis surtout, cette politique de l'offre, finalement. Parce que là, ce que vous demandez dans cette période de pré-campagne, c'est 35 milliards de baisse d'impôts de production.
Non, on demande d'être dans la moyenne européenne.
Bah vous demandez une baisse de 35 milliards, oui.
Et il se trouve que comme on paye 2 fois plus que la moyenne européenne, ça se traduit par une division par deux. Mais on serait dans la moyenne européenne, on ne demanderait rien.
Mais que peut-on en attendre? Parce que ça fait quand même depuis 2013 qu'on a une politique de l'offre. On a eu le CICE, le pacte de responsabilité, des baisses de cotisations patronales. Et puis avec ce quinquennat, on a eu 10 milliards d'impôts de production de moins. Et puis la baisse de l'impôt sur les sociétés. Et finalement, pour nos exportations, rien n'a bougé. Donc là, on entend les industriels dire, allez, encore des baisses d'impôts, mais si la compétitivité, ça n'était pas que le coût.
Mais la compétitivité, c'est d'abord le coût et c'est ce qui permet le reste. C'est parce que vous générez des marges, parce que vous pouvez investir, parce que vous pouvez innover, parce que vous pouvez monter en gamme, que 5 ans, 10 ans plus tard, vous avez consolidé une marque et que là, vous êtes en situation d'avoir ce qu'on appelle la compétitivité hors coût, mais la base.
C'est-à-dire l'innovation, c'est je fais l'iPhone.
L'innovation,
quoi.
C'est il faut avoir les moyens d'innover. Et les moyens d'innover, c'est la marge. Donc la compétitivité est la mère de toutes les batailles. Et sur la deuxième partie de votre question, c'est très clair. On a, pour la première fois significativement, engagé une politique de l'offre au milieu du quinquennat de François Hollande. Et cette politique a été poursuivie et amplifiée sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour la première fois depuis 30 ans, entre 2017 et 2019, on a non seulement arrêté de détruire des emplois industriels, mais on en a créé 40 000. On était sur une tendance de destruction qui était pas loin de 100 000 par an.
Donc vous dites que ça porte ses fruits.
Ça fait un vrai écart et ça porte ses fruits. Maintenant, pour que nos concitoyens en soit pleinement conscient, c'est-à-dire que ces chiffres de 50 000 deviennent 100 000, 200 000 et j'espère un jour 500 000, il faut que cette politique de l'offre s'inscrive dans le temps. Et en fait, c'est tout notre combat à l'aune de cette présidentielle, c'est de faire en sorte que la bonne orientation qui a été prise soit poursuivi, quel que soit le vainqueur de l'élection. C'est ça notre enjeu.
Et est-ce que vous proposez, quand vous dites bon bah 35 milliards de baisse d'impôts pour les entreprises, finalement ça fait un trou dans les comptes publics. J'imagine que les chefs d'entreprise sont sensibles aussi à l'équilibre des comptes publics. Vous dites quoi? Vous dites ces 35 milliards, on met ça sur je sais pas, on fait des hausses d'impôts, on peut travailler plus longtemps, on coupe dans les dépenses publiques?
Bah écoutez, il y a trois choses. D'abord, je pense qu'au niveau d'imposition qu'on a en France, et on voit les réactions de partout, je pense que l'idée qu'on peut augmenter les impôts pour régler nos problèmes me paraît pas très porteuse d'avenir. Mais il faut bien mesurer quand même que quand on soutient la politique de l'offre, on permet à plus d'activités de se localiser en France, donc in fine c'est plus d'emplois. On l'a vu avec l'augmentation de la population active. Donc tout ça a un effet certes décalé dans le temps, mais très positif sur l'équilibre des comptes sociaux. C'est plus de cotisants, c'est moins de récipiendaires d'allocations parce qu'on a remis les gens au travail. Il y a des études, je crois que j'ai vu l'Institut Molinari et quelques autres, qui disent que quand c'est bien ciblé sur les bons secteurs et le bon morceau de l'économie, à terme, c'est quasiment une opération blanche en termes de finances publiques. Alors, pour en être sûr, il faut essayer, il faut faire les mesures.
35 milliards, c'est beaucoup. Hein.
Mais à l'évidence, il y a un retour.
Alors justement, le retour, les contreparties, ça on le trouve dans la bouche de certains candidats qui vous entendent, hein, comme Valérie Pécresse, j'y pense, qu'ils ne sont pas opposés, mais qui disent « Ok, baisse d'impôts contre hausse de salaire ». Est-ce que les industriels sont prêts à jouer ce jeu-là?
Quand la situation d'une entreprise s'améliore, c'est très clair, et on peut prendre n'importe quelle entreprise, tout le monde en profite. Les collaborateurs, parce que comme l'entreprise va mieux, que ce soit sous forme de participation, d'intéressement, de hausse de salaire, il se passe des choses positives. C'est l'avenir de l'entreprise, parce qu'on a retrouvé des marges pour investir et pour innover, donc on sera plus fort demain. Donc le sujet n'est pas de faire un trade-off instantané, mais c'est que tout le monde prenne conscience que dans un monde ouvert, et c'est le cas de l'Europe, aider ces entreprises industrielles, c'est bon pour le pays, à court, à moyen et à long terme.
Mais vous entendez que dans le débat public, il y a un doute sur ce que vous appelez le trade-off, c'est-à-dire une espèce de donnant-donnant. Hein. On voit là que les entreprises industrielles se sont bien remises, il y en a certaines qui sont bien portantes, et pourtant on voit les grèves, là, Dassault, Naval Group, Air Liquide. Les salariés attendent, après le quoi qu'il en coûte face à l'inflation, ils attendent des réponses sur les salaires.
Bah, on verra les statistiques, mais moi ce que j'observe dans l'industrie sur les discussions en cours, et vous citiez quelques exemples, qui ont proposé en augmentation de salaire pour 2022, des chiffres sensiblement supérieurs à ce qu'ils avaient fait l'année précédente. Donc,
oui,
on va laisser l'INSEE.
Pas toujours au niveau de l'inflation.
Bah, l'inflation est à 2,8 en niveau, elle est un peu au-dessus de 2 en moyenne, et toutes les augmentations dont on parle sont situées entre 3 et 4. Mmh. Donc, encore une fois, laissons le temps faire son œuvre, laissons l'INSEE faire les mesures, et on s'apercevra que, comme toujours, quand il y a une pression sur les prix et qu'il y a une amélioration de l'environnement, les entreprises font leur travail.
Alexandre Sobo, une dernière question. Pour réindustrialiser, il faut des jeunes ingénieurs. Est-ce que vous faites partie de ces patrons qui s'inquiètent du niveau en maths et de la réforme du lycée qui pousserait certains lycéens à abandonner les maths?
En tout cas, on a besoin d'ingénieurs. Réussir la transition écologique, faire face aux défis de demain, on le fera par la recherche, par l'innovation, par les compétences. Et la matière de base sur lequel on appuie tout ça, c'est les mathématiques.
Mais est-ce qu'il y a un problème? C'est ça ma question.
Donc aujourd'hui, ce qu'on observe dans les premiers effets de la réforme avec le fait que les maths sont en option, c'est qu'il y a plutôt moins de monde qui emmène les maths jusqu'au bac. Donc si ça se poursuit et si on ne trouve pas des moyens d'inverser cette tendance, à terme, on va se retrouver avec insuffisamment de candidats ingénieurs et ce sera un vrai problème pour l'industrie.
Alexandre Sobo, le président de France Industrie, merci d'avoir accepté l'invitation d'en arrêter.
Merci à vous.
Sandrine Foulon, Morgane est déléguée du personnel. Elle se réjouit que les droits des lanceurs d'alerte soient bientôt renforcés. Mais le texte qui devrait être adopté la semaine prochaine peut-il réellement empêcher les représailles? Ça n'est pas la première fois qu'une loi est votée sur le sujet, vous dit Morgane.
Et vous avez raison Morgane, la France est très tôt outillée pour protéger toutes celles et ceux qui ont le courage dans leur milieu professionnel de dénoncer un comportement illicite ou dangereux. On a tout de suite en tête l'image de la pneumologue Irène Frachon qui a dénoncé le scandale du Mediator ou de l'ex-auditeur Antoine Deltour qui a révélé des accords fiscaux très avantageux entre le Luxembourg et des multinationales. Mais beaucoup de témoins d'actes contraires à l'intérêt général n'osent pas franchir le pas. Le risque de perdre son emploi est effectivement élevé. Alors oui Morgane, il y avait des protections comme la loi Sapin 2, mais elles restaient lacunaires. Le texte issu de la proposition proposition de loi du député Sylvain Wasserman pourrait vraiment changer la donne. Lundi, les sénateurs et les députés se sont mis d'accord sur une copie commune. C'est de très bon augure pour le vote définitif mi-février. La maison des lanceurs d'alerte, les syndicats et les associations saluent unanimement cette avancée.
Ça, c'est pour les bravos, Sandrine, mais sur le fond, qu'est-ce qui change ?
Beaucoup. Avant, pour dénoncer un délit, vous deviez suivre un ordre précis. D'abord, prévenir votre employeur, privé ou public, ensuite passer par un canal externe, et enfin, mettre la chose sur la place publique. Mais se confier à l'employeur, surtout si une fraude est systémique, par exemple, ça peut décourager. À l'avenir, les lanceurs d'alerte pourront passer directement à la deuxième étape, saisir les autorités compétentes, le défenseur des droits ou la justice, si elles ne répondent pas dans un délai qui reste à fixer, le recours à la presse sera possible. Il le sera même immédiatement si le danger est grave et imminent. Souvent isolés, les lanceurs d'alerte pourront être accompagnés par des facilitateurs qui travaillent dans des associations ou des syndicats et qui bénéficieront aussi d'une protection. Point capital, la loi prévoit de contrer ce qu'on appelle les procédures bâillons. Devant une armada de juristes et des procès sans fin, potentiellement ruinés, le lanceur d'alerte ne fait pas le poids. Désormais, il pourra réclamer à l'employeur une provision pour couvrir ses frais de justice et la dégradation de ses conditions de vie. Morgane, cette future loi n'immunisera pas sans doute totalement les lanceurs d'alerte contre les représailles, mais elle leur offre une sacrée armure pour se lancer dans la bataille.
Sandrine Foulon, les coulisses du monde du travail, c'est ma vie au boulot.